Grand reportage.
L'espoir le porte chaque personne qui habite ici. Notre peuple a une culture bien différente des Algériens, bien différente des Marocains. Et cette fête le montre. Toutes ces choses sont là pour montrer qu'on est un peuple qui ne ressemble pas à notre voisin, l'invasion marocain, malgré que lui, il insiste pour dire qu'on est partie de son peuple. Non, on partage aucun point de culture.
C'est un conflit qui a refait surface il y a un an, après quasiment trois décennies de cessez-le-feu. Les indépendantistes sahraouis du Front Polisario ont repris en novembre 2020 leurs opérations militaires contre l'armée marocaine. Des combattants volontaires aux maigres moyens font face à un système de défense hyper militarisé dans l'espoir de faire évoluer une situation politique au point mort. Les combattants oubliés du Front Polisario, c'est un grand reportage de François Mazet.
La frontière et le checkpoint de l'armée algérienne ne sont qu'à quelques kilomètres derrière nous et le mur de défense marocain quelques kilomètres devant. La Mauritanie aussi est toute proche. Après 3 heures de route et de piste, phares éteints dans la nuit, notre convoi de 4 pick-up s'arrête pour bivouaquer dans le désert. 2 tentes sont montées. Elles resteront là quelques jours tout au plus avant qu'un autre campement temporaire voie le jour ailleurs. Les téléphones sont éteints et les lumières interdites par peur des moyens de détection marocains. Au loin, des roquettes tirées par une unité de l'armée populaire de libération sahraoui, le nom officiel de la branche militaire du Front Polisario, passent comme des étoiles filantes et rythment la nuit. Au soleil levant, après quelques heures de sommeil à la belle étoile, on prend de l'avance, un rapide thé et la préparation du repas de la journée en prévision du retour d'opération. Le doyen de cette unité, principalement composée de trentenaires, s'attelle à pétrir la pâte à pain dans une auge.
Mon nom, c'est Hamoy, et prénom.
Et ça fait longtemps que vous êtes là?
Depuis longtemps, depuis 82. Il est déjà blessé, déjà à faire des opérations, plusieurs opérations à faire entrer. Pour cela.
Dans le désert, les galettes cuiront dans le sable sous les braises de charbon. Elles accompagneront la chèvre que les soldats sacrifient. Si la peau ne sert plus à faire des outres comme autrefois, les deux soldats prennent soin de récupérer toutes les parties utiles du cabri, consciencieusement ouverts, démembrés, dépiautés. Officiellement, les soldats de la PLS sont des engagés volontaires. Ils ne perçoivent pas de solde, alternent période de mobilisation et retour à la vie civile dans les camps de réfugiés en Algérie, où ils doivent travailler pour aider leur famille. Dans ces conditions et dans l'esprit d'un mouvement qui se veut de libération nationale, l'armée sahraoui est égalitaire, tout le monde participe.
On est des volontaires ici, on sert la cause, on fait des sacrifices. Sur le camp, il n'y a pas de statut. La hiérarchie est là pour donner des ordres sur le plan militaire, mais cela ne donne pas le droit à des privilèges.
Chacun participe donc aux tâches du quotidien. Le général dort avec ses troupes. Celui-ci, Abba Ali Hamoudi, est le chef de la 6e région militaire où nous nous trouvons, dans la région de Marbès. Cet homme de haute stature combat pour la PLS depuis la fin des années 70. Blessé 7 fois, opéré en France, passé en formation dans la Syrie d'Hafez el-Assad, il est directement à la manœuvre de l'opération du matin.
On a face à nous un segment de mur de 250 km. Derrière, il y a 4 bataillons militaires marocains avec plusieurs brigades, dont des unités spécialisées. Il y a des chars, il y a des radars et des moyens de surveillance. Et maintenant, il y a des drones également. Il y a des bunkers, des fosses, des mines. Alors nous, qui n'avons pas tous ces moyens, on le frappe la nuit et le jour pour ne pas laisser les Marocains tranquilles.
La construction de ce mur de sable a débuté en août 1980 pour protéger des incursions des combattants sahraouis le triangle utile du Sahara occidental autour du port de la Hayoun et des mines de phosphate. Il s'est étendu pour asseoir le contrôle marocain sur environ 80% de la superficie de l'ancienne colonie espagnole. Long aujourd'hui de 2700 km, il s'étend des rives de l'Atlantique à la frontière algérienne. Au fil des ans, sa protection s'est renforcée. L'armée marocaine bénéficie des dernières technologies, des radars et des drones complètent le dispositif aérien. En face, les hommes du Polisario se déplacent en détachement mobile à l'arrière de pick-up dont les cabines ont été découpées à la disqueuse. Sur certains, on monte des mitrailleuses lourdes, des lance-roquettes grades. Tout l'armement date des années 70 et 80 quand la cause sahraoui bénéficiait du soutien de puissants bailleurs comme la Libye ou Cuba. Notre détachement traverse le Reg, ce vaste désert de sable et de roches, à la recherche du meilleur emplacement pour lancer son action. Le moindre acacia sert de camouflage pour les véhicules. Nous traversons d'anciens campements des années 80, abandonnés des hommes de la PLS. Désormais, le mur marocain est trop proche, les moyens de reconnaissance trop précis pour se risquer à y faire halte. Après plusieurs heures de repérage et d'hésitation, à naviguer entre les unités éclatées aux quatre coins de la zone, les artilleurs prennent leur position. À bonne distance, nous prenons place, rampant à plat ventre jusqu'en haut d'une dune, en compagnie de plusieurs soldats, dont Brahim. Au loin, nous pouvons apercevoir le mur de sable marocain que les combattants appellent le mur de la honte.
Restez bien baissés, s'il vous plaît. Ici, nous sommes assez proches du mur de la honte. C'est ce que vous apercevez là-bas à l'horizon, environ 6 km. Donc, nous sommes proches aussi des défenses marocaines. Autant dire que chaque erreur peut être la dernière.
À nos côtés, Saïd suit et filme les opérations militaires pour la télévision Sahraoui.
Pour moi, ce mur représente le fait que la moitié de ma famille se trouve de l'autre côté et que notre terre est coupée en deux. Ça me fait beaucoup de mal, clairement. En face, il y a mes grands-parents, mais je ne les ai jamais vus. Bien sûr, je parle avec eux, mais sans les voir. Parce que moi, je suis né là, dans les camps. Donc, il faut que nous revenions sur nos terres. Il n'y a pas d'autre issue possible. Alors bien sûr, eux, ils ont des drones et tout ce qu'il faut. Tout ce que nous n'avons pas. Mais je suis convaincu que nous gagnerons quand même cette guerre.
À 13h25, les premières détonations retentissent. Nous apercevons au-dessus du mur des panaches de fumée noire et blanche en plusieurs endroits.
Ah, regarde, bien visé, on est en plein dans le mille, on a bien réussi notre coup, il faut continuer.
Les militaires marocains répondent à leur tour, l'échange dure plusieurs minutes, puis le silence revient. Abba Ali Amoudi, le chef de la région militaire, tire le bilan de cette opération.
On avait déterminé trois objectifs, la base numéro 20 du bataillon militaire 43 et les bases 21 et 22 du bataillon militaire 40. On a utilisé des roquettes Grad et la mitrailleuse de 23 mm pour cibler une portion de mur entre ces deux bases et forcer les Marocains à répondre, tandis qu'avec des mitrailleuses 120 mm, nous visions les bases. Je suis satisfait du travail fait aujourd'hui. Notre objectif est d'affaiblir leur position, de jouer sur leur morale. On a un avantage car on a des cibles précises, alors que nous, nous sommes toujours en mouvement et nous sommes insaisissables. Ici aujourd'hui, ailleurs demain.
Comme Abba Ali Amoudi, la plupart des chefs militaires de l'armée populaire de libération sahraoui ont connu la phase active du conflit dans les années 70 et 80. On pose alors la question du vieillissement des cadres de la PLS. Lui assure que depuis la reprise de ce conflit, où la connaissance du terrain est l'arme la plus efficace de ses combattants, une transmission s'opère.
Oui, c'est l'occasion aussi de transmettre nos connaissances. Vous avez vu que nous sommes accompagnés par des jeunes. Ce sont eux qui ont tout fait. Ils ont juste suivi les instructions, mais ils ont assumé la responsabilité de l'opération. Ils apprennent au fur et à mesure.
Voilà. À ses côtés, Omar, 23 ans, a mis ses études à l'étranger entre parenthèses pour rejoindre le Polisario, dont il se destine à devenir un officier.
Nous avons au sein de nos unités une grande expérience du combat. Maintenant, il nous faut partager le savoir, l'expérience du terrain des anciens et le mélanger à l'état d'esprit de la jeune génération. Il y a d'ailleurs beaucoup de savoirs techniques sur lesquels nous devons progresser. En face, il y a le mur de la honte, comme nous l'appelons, et moi, quand je le regarde, le seul sentiment qui m'envahit, ce sont ces années d'attente d'une solution pacifique, de division d'un peuple et d'une terre. Mais chaque jour, pas à pas, nous essayons de progresser et nous avons l'espoir qu'un jour nous arriverons à le faire tomber. Nous sommes contraints, obligés d'être là pour obtenir notre indépendance ou tomber en essayant.
Les chefs du Polisario affirment avoir les moyens d'entamer une guerre de contact avec les Marocains, mais s'en tenir pour l'instant à une guérilla qui doit garder l'ennemi en éveil. Néanmoins, dans cette situation de déséquilibre absolu des forces et avec des moyens qui semblent dérisoires, il faut aux combattants sahraouis comme Mohamed une bonne dose d'auto-persuasion.
Moi, je suis entré dans l'armée en 2004 parce que j'avais un but, que ma mère, ma sœur, ma grand-mère, mes filles aient une vie meilleure que dans nos campements. Battre les Marocains, revenir ici chez nous sur nos terres pour y vivre.
Non, le compte de la guerre, vivre ici.
L'opération terminée, nous regagnons le lieu du bivouac. Le pain du matin a épongé la graisse de la chèvre, cuite à l'étouffée. Chacun guette une ombre pour échapper au soleil de plomb le temps d'une sieste. Puis nous regagnons les camps de réfugiés en Algérie, à une trentaine de kilomètres à l'est. Dans le détachement que nous accompagnons, un homme porte une veste militaire, mais il n'a ni bottes ni pantalon de treillis. Ahmed a déjà 40 ans, ce père de deux enfants en bas âge est pourtant un nouveau volontaire qui sort à peine de sa formation militaire.
J'ai été lycéen et étudiant en Libye avant la Révolution. J'avais envoyé les documents pour finir mon master en anglais à Tarouna et j'avais été accepté. Je devais y retourner en mars 2011 après avoir rendu visite à ma famille dans les camps, mais malheureusement la révolution a débuté et j'ai dû y rester. Ensuite, j'ai travaillé à droite, à gauche, j'ai travaillé dans des commerces appartenant à un homme d'affaires, puis dans le bâtiment. Et puis en novembre, j'ai rejoint l'armée et les camps d'entraînement pour les volontaires. Il y a beaucoup de monde là-bas, beaucoup de jeunes qui attendaient ce jour, qui étaient frustrés, ne voulaient plus poursuivre leurs études. Et d'ailleurs, nos centres n'ont pas assez de place pour tant de volontaires. Tout le monde peut rejoindre l'armée d'ailleurs, même ceux qui sont plus vieux que moi.
Réfugié depuis 45 ans dans 5 camps établis au milieu du désert algérien qui rassemble 173 000 personnes selon l'ONU, les Sahraouis ont fondé beaucoup d'espoir dans le droit international. Depuis 1963, le Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome par les Nations Unies, le dernier du continent africain. Après le cessez-le-feu de 1991, ils ont cru qu'un référendum d'autodétermination serait possible, mais la diplomatie s'est heurtée aux intérêts antagonistes du Maroc et de l'Algérie. Trois décennies de statu quo n'ont laissé que peu de solutions aux jeunes Sahraouis. Vivoter dans les camps, partir étudier à l'étranger et y faire leur vie, ou revenir avec un bagage universitaire et se mettre au service de la cause de l'indépendance. Omar, justement, qui nous accompagnait au front, a décroché plusieurs diplômes universitaires en Libye, en Tunisie ou en Espagne. Il garde l'art de la guerre de Sun Tzu dans la poche de sa veste et a encore une vision enflammée de la lutte armée.
Pour être honnête, je suis très excité d'être ici. Je ne peux pas dire que j'aime la guerre, mais nous ne pouvons pas attendre plus. J'ai grandi dans les camps de réfugiés, mais j'ai eu la chance de pouvoir étudier à l'étranger, en Tunisie, en Espagne. Chacun voit les choses à sa manière, mais moi je crois qu'on ne trouve jamais un endroit comme chez soi. Le plus dur, c'est de vivre séparé. Or, le peuple sahraoui est un peuple qui a été séparé. Moi, j'ai de la famille dans les camps, mais aussi dans les territoires sous occupation marocaine, où la situation n'est pas bonne. Il y a beaucoup de prisonniers politiques, de répression, des gens arrêtés pour des manifestations. Bien sûr, il y a toujours un espoir pour une solution négociée, mais je crains que pour nous, elle ne puisse s'imposer que sous le bruit des canons, car la seule solution pacifique pour nous, c'est l'autodétermination, un référendum pour le peuple sahraoui. Et c'est de la responsabilité des jeunes intellectuels sahraouis. Nombre d'entre nous avons fait des études supérieures, donc ce sera utile. Je crois que nos militants doivent avoir un savoir large et plusieurs cordes à leur arc, car la révolution n'est pas une option, mais c'est notre responsabilité. C'est triste, mais la liberté n'est pas gratuite.
It is a sad thing, but the freedom is not for free.
Dans les camps, il nous est difficile de nous déplacer sans un traducteur affilié au Front Polisario. Si le mouvement sahraoui n'est pas connu pour réprimer les voix dissidentes, ceux qui acceptent de nous parler savent dans quel contexte ils s'expriment, puisqu'il encadre toutes les facettes de la vie ici. Derrière une mosquée du camp de Boujdour, la moins peuplée des cinq wilayas, les cinq camps, un groupe de jeunes se présente comme des militaires en congé. Ils nous assurent de leur enthousiasme.
Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver notre terre. Pour cela, il nous faut nous battre. Cela fait des années que nous attendions cela. Moi, j'étudiais dans un centre de formation, ici, mais en novembre, quand la guerre a repris, j'ai rejoint l'armée. C'est la décision qu'on attendait.
La liberté, on ne peut pas l'attendre de la communauté internationale. Il faut la chercher soi-même.
Et vous, vous êtes confiant? Même si le Maroc a des armes plus sophistiquées que les vôtres?
Non, ça ne nous inquiète pas. Nos grands-pères avaient de simples fusils et ils se sont battus quand même. Maintenant, on espère que le Polisario trouvera un moyen de nous avoir des armes plus sophistiquées.
Totalement dépendant au quotidien de l'aide humanitaire des Nations Unies et de la générosité algérienne, les habitants des camps déplorent l'oubli dans lequel ils sont tombés, tandis que trois décennies de cessez-le-feu n'ont pas permis d'avancer sur le fond du problème. Dans ces conditions, les citoyens sont tentés d'agir sans passer par les canaux officiels. C'est ce qui s'est passé en novembre 2020 à la frontière mauritanienne près de Guerguerat, où pour améliorer le trafic des camions, le Maroc a bitumé la route, y compris dans la zone démilitarisée par l'accord de cessez-le-feu de 1991. Des militants sahraouis s'y opposent, ils sont chassés par le Maroc. En réaction, le Front Polisario décide de reprendre ses opérations militaires. Parmi ces militants, Fatoumata Mentmoïssa nous reçoit pour le thé dans son salon du camp d'Aousser. Mère et grand-mère, âgées de 68 ans, elle est partie dans un convoi d'une soixantaine de personnes, sans en référer aux autorités sahraouies, pour défier la gendarmerie marocaine à 6 jours de piste et 1500 km de chez elle.
Ce sont des gens d'ici, des campements qui se sont organisés. On parlait de ce que faisait le Maroc à Guerguerat et on a décidé d'aller sur place. On ne peut pas rester éternellement dans cette situation. Donc, on a décidé de faire quelque chose, de manifester. On n'a pas demandé l'avis du gouvernement. On ne nous a pas aidés, mais on ne nous a pas empêchés de partir. On ne pensait pas que cela amènerait au retour des hostilités, mais que cela permettrait d'attirer l'attention internationale sur notre situation. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rester dans cette situation éternellement. Rien ne bouge, donc on doit continuer le conflit pour sortir de cette impasse.
Notre venue coïncide avec la fête de l'unité, fête nationale de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, ce proto-État en exil qui tente de prouver sa capacité à administrer des territoires. Les écoliers chantent dans les rues en tenue de fête des slogans favorables à l'indépendance. Les meilleurs, à l'adolescence, auront la chance d'aller étudier à l'étranger, en Algérie, en Espagne ou à Cuba. Certains y resteront, profiteront d'une vie meilleure. D'autres, comme Radija, 16 ans, ont une idée précise de leur avenir. Ils reviendront se mettre au service de leur famille et de leur cause.
Nous avons une politique qui nous donne des opportunités pour partir étudier, mais ce doit être seulement pour ensuite revenir et travailler pour ce pays. Ici, il y a des hôpitaux et d'autres choses. Donc nous, si nous avons la chance de partir étudier, c'est seulement pour servir le peuple sahraoui et l'aider à obtenir sa liberté.
Ahmedna a lui 22 ans. Cela fait 7 ans qu'il vit et étudie en Europe, actuellement le droit, à l'université de Nancy, dans l'est de la France.
Le Front Polisario est légitime dans tous ses aspects. Le peuple, qu'est-ce qu'il demandait? La jeunesse, qu'est-ce qu'elle demandait? C'est la guerre. Le Front Polisario connaît la guerre. Je ne pense pas que la jeunesse conteste le rôle du Front Polisario. Je ne pense pas. Et le Front Polisario est un parti politique, mais qui a su se développer, se changer. C'est vrai qu'on a des hommes politiques, ils sont dans la politique depuis longtemps. Ils sont là parce qu'ils sont avec la cause à 100%. Ici, l'intérêt individuel n'existe pas. Ici, si on ne pense pas à nos familles, si on ne pense pas à notre peuple, ici, on n'aura aucun avenir. On est un peuple minoritaire dans l'Afrique du Nord. Et on est plus solide que jamais. L'espérance est depuis le début jusqu'à maintenant. La guerre, l'exil nous a séparés en deux. Je n'ai pas connu mes grands-parents. Ils sont en vie.
Ils sont de l'autre côté du mur.
Ils sont de l'autre côté du mur. On a l'espoir qu'un jour, nous allons tous nous rencontrer et vivre dans un Sahara occidental libre et indépendant. Notre lutte est lutte de génération. Nos grands-parents, peut-être, sont décédés et qu'ils n'ont pas vu ce jour. Mais nous, ou nos enfants, allons la voir. Et ça, c'est quelque chose de sûr.
Le retour à l'état de guerre est populaire parmi les habitants des camps à qui nous avons pu parler. Il permet de mobiliser une jeunesse qui n'a connu que l'exil, les familles disloquées et le fait accompli de la diplomatie marocaine. Peut-être aussi de canaliser certains candidats à une démarche plus radicale.
Les combattants oubliés du Front Polisario, un grand reportage de François Mazet, réalisation Eva Piedel.
نتحدث الجهاد المستحيل نحن منعنا هذا الحب.